YouTubercule, fête ses un an avec Fakir.
Un an de plus qu'il n'avait l'année dernière. Un an de moins
qu'il n'aura la prochaine.
Un an de plus qu'il n'avait l'année dernière. Un an de moins qu'il n'aura la prochaine.
C'est pas mon anniversaire.
Ni le tien, ni le tien.
C'est pas mon anniversaire.
C'est le sien jusqu'à demain.
C'est pas mon anniversaire.
Ni le tien, ni le tien. C'est pas mon anniversaire. C'est le sien jusqu'à demain.
YouTubercule, vous n'y échapperez pas. Jamais.
Tu me dis, Thierry, comme ça on fait un petit lancement. On est parti, donc on est à la Casa Consola, 1 rue Consola à Marseille. On fête les 1 an de YouTubercule. Et on est autour de la table parce qu'on reçoit, alors moi on m'a dit CGT Crèche, vous allez peut-être préciser si c'est CGT Crèche. Et puis on le fait avec Camille Vandendrich,
voilà.
Journaliste à Fakir, puisqu'on a un événement Fakir aujourd'hui. On a Tristan, le nouveau directeur de Fakir qui est là, il y a le Mouet, il y a CQFD, il y a plein de gens qui sont autour de la table. Et donc on nous a dit, tiens, ça serait quand même super bien, en lien avec l'article qui est paru notamment dans Fakir, qu'on fasse le lien, de voir un petit peu, faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passe dans les crèches à Marseille, et c'est pas terrible. Donc on reçoit Sana, Gaël et Marie-Ange qui vont nous parler de ça. Il y a Antonia qui va nous rejoindre après. Ben, on voulait savoir où vous en êtes. Nous faites un petit état des lieux des crèches marseillaises. Comment vont vos minots ?
Bonjour. Ben, les minots, ils vont comme ils peuvent. Hein. Et les agents, ils vont pas très bien, en fait.
Et c'est quoi le problème ? C'est un problème de locaux ? C'est un problème de personnel, de qualification ? C'est tout mélangé ?
Oui, on peut parler de tout mélanger en fait. Il y a plusieurs problématiques. La première problématique, c'est le manque de personnel, parce que, ben, à l'instar de l'hôpital et d'autres secteurs, du public, etc., on a une crise des carrières. Et depuis le Covid, on n'arrive plus à recruter. Donc on était déjà, on va dire, pas super à l'aise juste avant. Et là, carrément, c'est la cour des miracles. Voilà. Et pour ce qui est du reste, donc tout ce qui est locaux, matériel, etc., je pense que nos écoles marseillaises, elles ont assez fait la une, donc on sait comment sont les locaux à Marseille. Voilà, les crèches, elles n'y échappent pas. On en entend moins parler parce qu'on a une image un peu édulcorée de la crèche, etc., mais voilà, les crèches n'échappent pas à la règle, donc des locaux détériorés ou du matériel qui est inadapté, en fait.
Et ça concerne, sur Marseille, ça concerne combien d'enfants, à peu près ? On a idée de ce que ça concerne en termes de public ? Combien il y a d'enfants accueillis dans les crèches ?
En termes de public, là, je vais avoir des difficultés à te répondre. Je sais qu'aujourd'hui, on est sur 59 structures, je crois, ouvertes. Une qui est fermée pour travaux. Et elles accueillent toutes entre une trentaine et jusqu'à peut-être 120 enfants. Donc, il n'y a pas assez de lits, ça c'est sûr, mais il y a quand même pas mal de public accueilli, quoi.
Moi, ce matin, en relisant l'article de Camille, je me suis rendu compte que, en fin de compte, il y a très peu... Enfin, proportionnellement, il y a plus d'enfants qui sont gardés par des nounous, des grands-parents, que des gamins qui vont en crèche, quoi.
Oui, et des gamins qui vont en crèche sur des structures publiques aussi, de moins en moins, parce que finalement, les financements partent beaucoup à l'associatif et au privé. Et nous, à Marseille, depuis maintenant longtemps, on n'ouvre plus de nouvelles places en crèche, en fait. Hein, donc, on répare un petit peu l'existant, et on a même fermé des structures, en fait, et on a réduit l'offre de services publics sur Marseille aujourd'hui, quoi.
D'accord. Et à la suite du Covid, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de défections dans le personnel.
Ben, des défections. Alors, déjà, on a été public. Enfin, on est déjà... La pyramide des âges est déjà très âgée, tu vois, dans les crèches. Donc, en fait, il y a énormément de départs en retraite. Et avec les difficultés à recruter et les gens, en fait, aujourd'hui, des contractuels qui ne veulent plus rester, qui s'en vont, etc., qui ne veulent pas rester dans le public, en fait, si tu veux, on a en effet beaucoup de difficultés. On est toujours sur le fil, en fait. On travaille dans des conditions dégradées, en fait. Voilà, on est quand même encore aujourd'hui, on a la chance d'être régi par des textes, en fait, avec des taux d'encadrement. Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à les tenir. Et même sans grève, aujourd'hui, il faut savoir qu'on ferme du service public. En fait, il y a des parents, le soir, ils arrivent sur la crèche et on leur annonce que le lendemain, en fait, ils n'auront pas de structure ouverte pour leurs enfants, faute de personnel. Parce qu'on est encore un peu encadré par des textes de loi qui nous obligent à tant d'adultes pour tant d'enfants, en fait.
D'accord. Et là, c'est combien d'enfants par adulte, là, le quota à l'heure actuelle ?
Alors, c'est toujours une pour cinq qui ne marche pas et une pour huit qui marche. Dans le taux d'encadrement, il y a une moyenne, parce qu'on a aussi des cadres de santé, en fait, qui sont en direction de crèche, des éducatrices de jeunes enfants, etc., qui sont comptées totalement ou partiellement auprès des enfants, mais qui ont de plus en plus aussi de missions, en fait, d'encadrement administrative, etc., donc ils ne sont pas sur les équipes. Et après, on a un contingent. Alors nous, on a quand même pas mal de diplômés parce qu'on embauche essentiellement des auxiliaires de puériculture et des titulaires du CAP Petite Enfance qui, à Marseille, sont des ATSEM parce qu'elles ont passé le concours ATSEM. Voilà. Et donc, on a quand même pas mal de diplômés. Voilà. Donc là, récemment, on a un dispositif qu'a souhaité en fait, mettre en place la nouvelle municipalité, c'est-à-dire qu'on nous a doté partiellement, parce qu'on n'est pas, encore doté sur toutes les crèches, d'agents d'entretien en fait, pour soulager un petit peu les personnels qui ont en charge aussi l'entretien, le ménage, le linge, etc. sur les structures. Et malheureusement, ces agents n'ont pas le droit... Enfin, je veux dire, bon, ils sont pas... On fait rentrer des non-diplômés, mais qui n'ont pas le droit d'être auprès des enfants, en fait. Donc, en fait, c'est une solution sans être vraiment une solution, en fait, parce que sur le taux d'encadrement, c'est toujours autant dégradé, en fait.
D'accord. Donc, le fait... Vous avez du personnel qui vient pour filer un coup de main, mais il ne peut pas faire beaucoup plus parce qu'il ne peut pas prendre en charge les enfants.
Elles en font déjà énormément. Voilà.
À savoir, Eric, pour rebondir hein, sur ce que dit Marie-Ange, quand on dit la règle, c'est un personnel, enfin un encadrant pour 5 enfants qui ne marchent pas. Donc il faut s'imaginer, c'est 5 bébés. Et s'occuper de 5 bébés en même temps, c'est surhumain et c'est déjà trop peu. Quoi. Enfin, c'est une seule personne, il en faudrait peut-être 2 ou déjà... En tant que parent, quand on est seul avec son bébé, bon, ben on s'ennuie pas. Hein. Donc quand on en a 5, et c'est ça dans l'article, c'est ce que me décrivaient les professionnels. Et c'est 1 pour 8 qui marche. Donc oui, c'est quand même, ça fait beaucoup. Quoi. C'est, oui. 8, c'est presque.
Si elles se mettent à courir, ça va être compliqué. Quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et toi, quel est ton regard, un complément par rapport à ce qu'a dit Marie-Ange sur la situation par rapport à ton taf?
Ben en fait, au final, on est tous sur le même objectif, d'essayer d'être au maximum là pour les enfants, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que du coup, on est en manque de personnel, donc du coup, on va faire plusieurs tâches en même temps, et les enfants sont demandeurs, et on ne peut pas forcément subvenir à leurs demandes. C'est surtout ça qui nous attriste le plus, parce qu'on se retrouve... à devoir enjamber un enfant parce qu'il y en a un autre qui est tombé ou parce qu'on n'est pas assez en nombre.
Donc j'imagine qu'il doit y avoir un sentiment parfois même de maltraitance, non ?
Oui, ça s'appelle de la maltraitance institutionnelle, effectivement, et à cause de ce manque de personnel récurrent, surtout.
Je voulais demander, les crèches sont régies par les municipalités ? Ou par les intercommunalités ou par l'agglomération sur Marseille ? C'est comment ça se passe ?
C'est une compétence directe de la mairie.
C'est une compétence directe de la mairie. C'est Antonia qui vient d'arriver, c'est ça ? Bonjour Antonia. Je voulais savoir aussi, l'organisation des crèches, est-ce qu'il y a un système qui serait équivalent de la carte scolaire et qui oblige les parents à mettre, a priori, les enfants dans un quartier particulier ou il y a une liberté totale ?
Alors, liberté totale, non, parce que bah, déjà, quand il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de liberté totale. En fait, les parents s'inscrivent en ligne sur... c'est très impersonnel, en fait. Hein, ils s'inscrivent en ligne sur un site internet et ils vont s'inscrire sur un secteur, en fait. Et on leur répond. Un truc hallucinant, on doit attendre son 6e mois de grossesse pour avoir le droit de s'inscrire, en fait. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes une jeune maman, vous êtes enceinte, vous n'avez pas de mode de garde, vous êtes enceinte de 6 mois et vous vous inscrivez pour avoir potentiellement une place en crèche. Enfin, donc, du coup, c'est très compliqué. Et après, il y a des commissions d'attribution qui se réunissent très régulièrement. Et voilà, et on remplit comme ça nos structures, en fait.
J'imagine qu'il y a un marché de la crèche aussi, non ? Qu'il doit y avoir des établissements privés, non ?
Oui, on en voit fleurir de partout, des petits établissements privés. Et quelque part, ben, heureusement, pour pallier un petit peu les manquements du service public. Mais enfin, nous, on juge que ce n'est pas satisfaisant, en fait. Hein.
C'est un coût important, je ne m'en rends pas compte.
Oui, c'est un coût important. Et en même temps, ça me dérange qu'on en parle en termes de coûts. Hein. C'est comme l'éducation nationale, c'est comme l'hôpital, etc. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il faut un vrai service public, en fait. Et il ne faut pas le considérer comme un coût. Donc oui, on coûte de l'argent à la municipalité. On est un gros poste de dépense. Mais ce n'est pas suffisant à l'heure actuelle. Hein.
Non, mais c'était pour savoir s'il y avait un développement, disons, privé de la gestion.
Il y a certainement une rentabilité. Après, moi, je connais assez mal les structures privées, mais enfin, je pense que, potentiellement, s'il y en a autant qui ouvrent, c'est qu'il y a de l'argent à faire dans ce secteur-là. Quoi.
Sur Marseille et à l'échelle nationale, a priori, c'est 200 000 places qui manquent et que le gouvernement veut créer d'ici 2027. Le problème, c'est comment ils veulent les créer. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en supprimant pour une partie du personnel l'obligation d'avoir un diplôme. Et l'autre manière, c'est de réduire le nombre de mètres carrés minimum par enfant, de 7 à 5,5 mètres carrés. dans les villes où il y a une tension immobilière. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On parle de 5,5 mètres carrés par enfant. On parle d'enfants, on ne parle pas voilà, de moutons ou de poules. Et c'est des solutions pansement, quoi. C'est pas comme ça que ça va améliorer la garde des enfants. Quand il y a des accidents, l'an dernier, à Lyon, il y a eu un enfant qui a été intoxiqué dans une crèche privée. Et donc, c'est une fillette de 9 mois, je crois, qui est décédée. Donc, ça a fait. Voilà, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de parents qui ont témoigné des accidents ou des maltraitances que leurs enfants ont subies. Mais derrière, les annonces gouvernementales, c'était ça. C'était un décret pour autoriser le recrutement de personnel non qualifié. Il y a une limite maximum. Hein, je crois que c'est 15% du personnel qui peut ne pas être qualifié. Et puis aussi réduire le nombre de mètres carrés.
Est-ce que, j'imagine que les pouvoirs publics sont au courant. Qu'est-ce que globalement il se passe? Il ne se passe rien du tout ou il y a de temps en temps des petites améliorations? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'ils ont, dans l'équivalent d'un plan local d'urbanisme, est-ce qu'ils ont budgétisé la création de crèches? Non, j'hallucine là peut-être.
Non, je souris parce que non, absolument pas. Donc là, il est question d'améliorer nos conditions de travail en recentrant par exemple les missions des personnes dites ATSEM qui sont titulaires du CAP Petite Enfance en fait et qui aujourd'hui, c'est mon cas, sont devenues quasiment techniciennes de surface. Il n'y a pas de terme péjoratif quand je dis ça. Je veux dire, l'hygiène des locaux, c'est très très important. Hein, mais elles ne sont plus du tout sur leur mission. Vous avez aujourd'hui des auxiliaires de puériculture, donc Antonia pourrait témoigner de ces conditions de travail. Qui sont maintenant, je veux dire, pareil, sur des missions en fait, de responsabilité parce qu'elles sont passées en catégorie B. Pareil, et c'est toujours au détriment de l'enfant que ça se passe. En fait, on ne se rend pas compte. On a toujours cette vision édulcorée de la crèche. Mais en fait, une journée en crèche, quand un parent nous dit il a passé de mauvaises nuits, il va se reposer aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un enfant ne se repose pas en crèche parce qu'on n'a pas des situations d'accueil qui sont optimales pour que l'enfant puisse respecter son rythme, qu'on puisse respecter ne serait-ce que ses besoins. Parce qu'on fait de l'abattage, ça me fait mal de le dire, parce que nous, on a tout choisi autour de la table de travailler dans les crèches. C'est des métiers qu'on a choisis. On n'est pas rentré parce qu'il y avait de la lumière. Ce sont des métiers qui sont pénibles. C'est des métiers où on nous dit le matin, ben, amusez-vous bien, mais ce n'est pas que de l'amusement, en fait. Hein. Et même si on adore notre métier, aujourd'hui, on souffre de nos conditions de travail, parce qu'on parle de neurosciences, etc., des 1000 premiers jours de l'enfant et tout. Et nous, ça nous fait sourire, mais un peu amèrement, parce qu'en fait, on n'y est pas du tout, quoi. Sur les besoins de l'enfant, on n'y répond pas.
Vous avez l'impression de mal faire votre boulot, en fait.
C'est pas une impression.
Ouais. Voilà. Et j'imagine que ça a une incidence sur les activités qui sont proposées aux gamins. Parce que s'il n'y a pas d'argent pour mettre du personnel, s'il n'y a pas d'argent pour avoir des locaux convenables...
Moi, je salue quand même les personnels, parce que les personnels, quand même, on a des supers équipes, on a des nanas qui, malgré les ans qui passent, les corps qui s'abîment et les conditions de travail qui sont quand même toujours là et qui sont, pour certaines, franchement, extraordinaires. Donc moi, je les salue parce que vraiment, je pense qu'elles font tout pour que les enfants passent une bonne journée. Quelquefois, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué de tenir une journée, de ne pas être dans l'énervement, la fatigue et le découragement, en fait.
Est-ce que vous vous sentez soutenu par notamment les parents? Est-ce que les parents sont avec vous ou est-ce que les parents, ils essayent avant tout de trouver une solution pour leur gamin et ils ne sont pas conscients de l'ampleur du problème?
C'est compliqué. On a des parents qui sont tout à fait conscients, qui cette année nous ont demandé « mais que se passe-t-il » Enfin, ils se sont rendus compte que là, sur les 3 dernières années, ça s'était fortement dégradé. C'est la première fois qu'on leur ferme des structures faute de personnel, qu'on leur dit « demain, vous n'avez pas de... telle section sera fermée, vous n'avez pas de mode de garde, débrouillez-vous ». Et il n'y avait pas de grève au moment où ça s'est passé, et ça continue encore, actuellement, quoi. Donc, je pense qu'ils ont pris conscience que, en effet, par contre, un parent qui doit aller au boulot avec toute la pression qu'il peut y avoir sur, par le patron, par la mission de travail, etc., qui arrive devant sa crèche qui n'a pas de... Enfin, voilà, je veux dire, souvent, les parents ne vont pas voir. C'est comme quand il y a des grèves des cantines, ce qui se passe derrière le portail, vous voyez ?
Oui, oui.
Voilà, donc moi, je les invite à s'intéresser un petit peu plus aux conditions d'accueil. Il y a des parents qui sont inquiets. Je pense que c'est les premiers, en fait, aussi, qui vont réagir en cas d'accident, d'incident sur les structures. Je pense qu'on a de la chance parce qu'on n'a pas tellement d'accidents sur les crèches de la ville de Marseille parce qu'on a de très, très bonnes professionnels. On a quand même beaucoup de diplômés et tout. Mais c'est souvent au détriment de leur santé. Moi, je veux dire, j'ai une pensée pour une de mes collègues qui à bout de fatigue, en fait, a fait un accident de travail il y a un mois sur ma structure, vous voyez. Et c'est pas la seule. Voilà. Là, nous, on a des chiffres de la médecine du travail à Marseille. On a cette chance-là qui le montre bien. En fait, on est des métiers à forte tension. Et en fait, dans les services en fait, qui vont être dits administratifs, qui vont en fait, avoir un fort taux de reclassement, en fait, on alimente les autres services parce qu'au bout d'un moment, en fait, on n'y arrive plus, les corps s'abîment. En fait.
Donc, vous expliquez, en fin de compte, là, ils embauchent des personnels sans formation. Donc, il y a un quota, c'est ça, de 15% qui est autorisé.
Ça, ce n'est pas appliqué à la ville de Marseille pour l'instant. Ce n'est pas le souhait de l'administration qui est en place. Ça va certainement se mettre en place dans les structures privées, j'imagine, parce que ben, on les paye moins, c'est plus facile à recruter, etc. À la ville de Marseille, la seule chose qui a été actée, c'est de faire rentrer donc des agents d'entretien pour soulager en fait sur ces missions-là et nous recentrer sur les missions auprès des enfants, ce qu'on peut saluer, même si ça amène d'autres difficultés après dans la mise en place, en vérité. Mais voilà, non, il y a quand même, je pense, une volonté que voilà. Mais la réalité, je veux dire, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, on peut avoir un bel organigramme. Si l'organigramme, il est vide, et c'est actuellement le cas de l'organigramme de notre direction, par exemple, si l'organigramme est vide, eh ben on ne fera pas, quoi. Voilà, parce qu'on ne sera pas en capacité.
C'est quand même extraordinaire, parce que bon, on sait dans quel état sont les EHPAD, on sait dans quel état est l'hôpital, on sait dans quel état est l'école, et on s'est dit, non, on n'est pas dupes non plus, on s'imagine bien du fonctionnement. Mais c'est quand même affligeant de voir qu'il y a des milliers de gamins qui attendent pour aller en crèche, il y a des milliers de parents qui aussi attendent pour qu'il y ait des places qui se libèrent. Et, je veux dire, je ne comprends pas le mécanisme. Les élus ici, quand vous avez affaire à un élu, il vous dit quoi ?
Ah ben, alors on a quand même eu un changement de municipalité où ça a quand même changé de ton, en fait. On a quand même des élus en face qui sont un peu plus bienveillants dans la parole, etc. Mais dans les faits, je pense qu'ils sont complètement noyés, en fait, par l'ampleur du désastre, j'ai envie de dire, quoi.
Camille, est-ce qu'on a des exemples de fonctionnement, alors je sais pas, en France, dans certaines villes ou à l'étranger, sur la gestion de la petite enfance et des crèches ?
Je sais que au Japon, Corée du Sud... les enfants sont extrêmement bien encadrés, il y a un fort taux d'encadrement. Il n'y a pas ces problèmes qu'on rencontre en France, mais par contre, le coût, le reste à charge pour les parents, je crois, était supérieur à en France.
D'accord. C'est combien le reste à charge pour un parent en moyenne, tu as une idée ?
Vous avez idée ? Alors, le reste à charge, il est très variable. Hein. Je veux dire, on a des familles dites modestes. En fait, c'est vraiment en fonction du revenu fiscal, en fait. Vous voyez, donc, les crèches de la ville de Marseille aujourd'hui, elles sont quand même abordables pour les familles. C'est pour ça que, je veux dire, on aurait le souhait déjà qu'elles perdurent. Et pourquoi pas étoffer l'offre, parce que c'est quand même beaucoup moins cher, en fait, qu'une crèche privée, quoi.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Non,
Gaëlle ?
Non, je pense que ma collègue a tout dit sur notre mal-être, sur tout ce qui peut se passer en fait à la municipalité. C'est vrai que ça nous rend dingue de se dire qu'on est fonctionnaire en fait, parce que tout le monde rêvait à l'époque d'être fonctionnaire et de pouvoir accomplir son métier comme il faut, et c'est plus le cas, quoi.
Et là, par rapport à cette situation, c'est quoi les moyens d'action que vous avez mis en place ? Manif, grève, blocage, sensibilisation, c'est que... Comment ça s'est mis en place, vous ?
Alors, nous, on a pas mal travaillé avec le collectif Pas de bébé à la consigne, en fait. Hein. Et la problématique, c'est qu'il y a eu plusieurs belles mobilisations, en fait. Hein. Mais la réponse au niveau de la préfecture et au niveau du gouvernement, elle a été toujours très décevante, en fait. Hein. Ça a été à chaque fois une fin de non-recevoir, quoi. On a pu bouger un peu à la marge les nouveaux décrets, etc. Mais c'est à la virgule près, quoi. Donc, c'est pas satisfaisant. Et après, nous, localement, donc, outre le fait qu'ils ne reconnaissent pas la pénibilité des agents, etc., etc., je veux dire, la compassion et la petite tape sur l'épaule, ça va 5 minutes, mais il faut répondre autre chose aux agents qui sont en souffrance aujourd'hui. Il faut répondre surtout autre chose aux enfants, qui sont un public fragile quand même, hein, je le rappelle. Et puis, on peut se poser des questions aussi dans un pays, en fait, quand on voit comment ils traitent leurs anciens, quand on voit comment on traite les enfants, en fait, tous les gens vulnérables, comment ils sont traités aujourd'hui, ça donne une image de la société dans laquelle on évolue. C'est un peu inquiétant pour moi.
Ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas venu, le roi d'Angleterre, il a dit.
Ça doit être pour ça. Ouais.
Ça doit être pour ça. Bon, ben, on va faire une petite pause musicale, Thierry. Après, on va voir les questions qu'on a à poser, celles qu'on a oubliées. Et, ouais, tu voulais dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Pensez à acheter Fakir. Il y a un dossier super à l'intérieur. Et puis, Milly va le diffuser sur les réseaux dans pas longtemps. Et puis, vous aurez l'opportunité sur YouTube Hercule d'écouter cet enregistrement et ceux qui vont suivre après. Voilà, tout de suite. Bisous.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. This room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
On est bon, on a aligné les planètes, on a fait une petite pause pendant laquelle on a été fouiller des questions. Et donc il y a des questions, il y a notamment Stéphanie qui voulait vous questionner autour de la table sur une volonté d'arrêter en fin de compte les crèches municipales pour aller à moyen ou long terme sur un système privé. Je ne sais pas si tu veux nous en dire quelque chose, Antonia, Marie-Ange.
Ben oui, mais c'est la conviction qu'on a en fait, hein, de voir venir de plus en plus de contractuels et de moins en moins de diplômés. Ok, c'est une bonne idée de remplacer, enfin de les mettre auprès des enfants, mais on sera toujours en sous-effectif.
C'est très bien de mettre des agents d'entretien, franchement, on les remercie beaucoup, mais le problème c'est qu'on est en manque de personnel, ils nous envoient des agents d'entretien, alors qu'on a vraiment besoin des agents
diplômés. De personnel qualifié. Ouais.
Voilà. Et ça, c'est très embêtant parce que le problème reste pareil, quoi. Ça ne change pas.
Vous avez évoqué le fait qu'en fin de compte, les crèches sont subventionnées en fonction de leur taux de remplissage. Très belle formule.
Oui.
Taux d'occupation, pouvez-vous nous en dire
alors,
un peu plus?
Alors, c'est la Caisse nationale, hein, de la CNAF, donc, qui finance en grande partie les crèches. Et donc, en fait, si le taux de remplissage... Alors attention, on parle toujours d'enfants, hein, on ne parle pas de poules, mais si le taux de remplissage n'est pas suffisant, en fait, les subventions qui sont allouées à la crèche ou à la ville, donc en l'occurrence la ville de Marseille, elles sont enlevées, hein, supprimées, on demande même le remboursement. La ville de Marseille, donc y a eu quand même la période Covid, donc la ville de Marseille, quand même, elle a eu son taux de fréquentation des crèches fortement chuté. Elle a dû rembourser, je ne sais plus combien, mais enfin, des centaines de milliers d'euros à la CNAF. Voilà. Donc on a notre élue, qui est Madame Guérard, qui est allée monter des projets, etc., pour trouver encore des financements supplémentaires, et c'est tout à son honneur, mais voilà, je veux dire, c'est extrêmement bizarre de parler d'enfants et de parler de taux de remplissage. Donc aujourd'hui, pour avoir un taux de remplissage à peu près correct, on doit avoir un taux de fréquentation, enfin d'inscription, aux alentours de 110-115%, voire 120% sur certaines crèches, en fait, hein, pour arriver à peu près à avoir un taux qui soit correct après, parce qu'après, il y a la maladie infantile, il va y avoir tout un tas de facteurs qui font que les enfants ne vont pas venir tout le temps de manière continue. Et quelque part, ça nous a un petit peu sauvés par rapport à la pénurie de personnel. Mais enfin, ça, la CNAF n'y entend rien, en fait. Hein. Eux, ils sont là dans du numéraire, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toute la problématique, en fait. Hein. Pour les directrices, un petit peu, qui veulent préserver leur équipe et qui ne font pas ce système-là, etc., c'est une double pression. Parce qu'il faut savoir qu'elles sont, elles touchent, nous, à la ville, des primes, pareil, toujours au nombre de lits, etc., et donc aussi qui sont en relation avec le taux de remplissage. Elles se font taper dessus aussi par l'administration si la crèche n'est pas assez remplie, etc. Mais quelquefois, c'est juste pas possible, en fait. Et donc, nous, on a un système à la ville de Marseille, c'est que vous avez donc les enfants qui sont inscrits sur des contrats de 5 jours, 4 jours, 3 jours, etc., et elles sont censées compléter, en fait, les trous avec ce qu'on appelle, nous, des occasionnels. Donc, c'est-à-dire que ben, ce jour-là, on sait que tel enfant ne vient pas, etc., si tant est que les parents ont prévenu. Et on va téléphoner à une liste de famille en disant ben, « Aujourd'hui, voilà, on a une place pour vous, etc. » Donc, je vous laisse imaginer aussi les conditions d'accueil de l'enfant qui ne vient pas tout le temps, qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas fait le lien comme il faut avec l'équipe, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'elles sont censées faire. Certaines refusent de travailler comme ça, mais c'est compliqué, en fait, hein, parce qu'elles sont un peu entre le marteau et l'enclume aussi, vous voyez.
Et par rapport au Covid, donc tu expliquais là pendant la pause qu'il y avait avant le Covid une expérience de crèche mobile qui du coup a été supprimée.
Alors c'était de la halte-garderie mobile. Alors à Marseille, initialement, on avait deux halte-garderies. Il nous en reste juste une maintenant dans le 7e arrondissement. On en avait une sur Frévalon. Et on avait des halte-garderies mobiles qu'on appelait les bébés-cars. Donc c'était un dispositif qui n'existait nulle part ailleurs, je crois, qui était sympa. Je vois, pour une fois qu'à Marseille, on a des trucs un peu chouettes comme ça. Et qui était de l'halte-garderie itinérante, donc qui se greffait à des centres sociaux, à des locaux de la mairie, etc. Ces bébés-cars étaient totalement équipés pour accueillir des jeunes enfants. Hein, donc il y avait tout le matériel disponible, etc. Et ça permettait à des parents d'avoir un mode de garde dit temporaire, hein, 2 heures lit, 4 heures là, etc., pour ne serait-ce qu'aller faire des démarches administratives, un rendez-vous, voilà. Hein, donc, et ça a complètement disparu. Bon, ben, d'une part, ben, parce que pendant le Covid, c'était un dispositif qu'on ne pouvait pas mettre en place. Et après, on n'a jamais été en capacité, en fait, de le remettre. Et du coup, je pense que ça a été... c'est tombé aux oubliettes, en fait, mais parce que de toute façon, on n'aurait pas le personnel nécessaire pour fournir, en fait...
Tout à l'heure, il y a Antonia qui l'a évoqué, le rythme des enfants et le principe des neurosciences et difficulté à avoir des crèches qui respectent le rythme de l'enfant. Vous pouvez nous en dire quelques mots aussi?
Ben oui, ben nous, en fait, à l'ère des neurosciences, en fait... Où on est censé respecter en fait les besoins de l'enfant, etc. Ben, tout simplement, nous on n'y arrive pas. Alors c'est très très difficile. En plus, c'est des sciences, hein, je veux dire, c'est pas une invention, etc. Donc on va se heurter à plusieurs trucs. On va se heurter aux professionnels qui ont 20 ans, 30 ans de vie, qui parfois sont un peu réticentes. Ben parce que ben d'un coup, d'assimiler ces nouvelles données, ben c'est un petit peu compliqué. Parce que, ouais, ben il fait des caprices. Ben non, c'est pas des caprices. Un enfant, il est incapable de faire des caprices jusqu'à un certain âge, etc. Donc ça s'explique, c'est des sciences, en fait. Le cerveau n'est pas mature. On ne fait pas le bébé, quand il est né, il n'est pas fini. Donc son cerveau n'est pas fini non plus, etc. Donc, et nous, aujourd'hui, enfin moi, personnellement, je me retrouve, on en a parlé tout à l'heure, elle disait, je passe par-dessus un enfant. Moi, je contourne parfois des enfants qui pleurent, qui auraient besoin d'un contact physique, que l'adulte soit à leur hauteur, et ils ne voient passer que des jambes, en fait, d'adultes pressés, parce que parce qu'on travaille dans l'urgence, et là, ce n'est pas respecté, en fait. On ne respecte pas les besoins de l'enfant, et ça peut avoir de très grosses répercussions sur le long terme, en fait.
Ce que j'ai recueilli comme témoignage, c'est ça, c'est qu'il y a un tel nombre d'enfants encadrés par encadrant que... Eh ben, elles n'ont pas le temps, tout simplement. Des enfants qui sont sages et qui restent sages, eh ben, on les laisse tranquilles dans leur coin et ils ne sont pas stimulés, pas éveillés. Enfin, ça, c'est peut-être dans les cas où ça se passe le moins bien. Mais apparemment, c'est assez fréquent.
Est-ce que je peux dire quelque chose ? Un enfant, en plus, il n'est pas là pour rester sage, en fait. Il est là pour bouger, il est là pour apprendre, il est là pour faire plein de choses, il n'est pas là pour rester sage. Moi, j'étais en surveillance de sieste la semaine dernière dans un dortoir où j'avais, si je ne dis pas de bêtises, 23 ou 24 grands. Donc, j'étais seule. J'ai des grands qui se sont réveillés pour aller aux toilettes. Enfin, c'est des petits, quoi.
Ouais, le grand, il a quel âge, en fait?
Les grands. Alors, les grands, c'est un grand mot. Ça peut être 2 ans, 18 ans. Enfin, ça tout dépend de la configuration de la crèche. Hein. Mais j'ai là pas mal d'enfants qui n'ont plus la couche. Et je ne suis pas à côté des toilettes, vous voyez. Donc, vous laissez des enfants en complète autonomie, va aux toilettes, reviens. Enfin, j'ai géré ça. Et en fait, dans le dortoir, ça a été. J'ai fini un peu tendu, vous voyez. Voilà. Mais un enfant, il n'est pas là pour. Voilà. C'est pas normal qu'on dise à un enfant. Ben, c'est pas normal qu'un enfant qui a faim doive attendre. C'est pas normal qu'on chronomette les enfants à table parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas normal que. Allez, on fait ça, on fait ça, on fait. Enfin, on n'a pas le temps, on n'explique rien, en fait.
Il y a des compétences à acquérir, une formation à avoir. Est-ce qu'une fois qu'on bosse dans une crèche, que ce soit à Marseille ou ailleurs, est-ce qu'il y a une continuité dans la formation? Est-ce que par rapport au progrès des neurosciences, de la réflexion sur l'accueil des enfants, sur le rythme de l'enfant, est-ce que vous avez une formation? Je vais dire permanente.
Permanente, non. Mais on a des formations, on a des ateliers. On n'en a pas assez, c'est jamais assez, en fait. On a, nous, la possibilité, une fois par mois, de fermer un peu plus tôt, en fait, pour avoir des réunions sur nos pratiques de travail, etc. Actuellement, par exemple, moi, celles de ce mois-ci, celles du mois prochain, sont d'ores et déjà annulées, parce qu'on manque tellement de personnel, de temps, etc., qu'on ne veut pas encore plus fermer la structure pour les parents, etc. Voilà, donc oui, on a quelques formations, etc. Si tant est que le personnel, on puisse le laisser partir sur les formations, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que, ben, comme vous êtes encadré, parce que c'est décrit, et heureusement, eh ben, ce jour-là, la copine qui avait ses 2 jours de formation sur l'enfant porteur de handicap, parce que ça aussi, la question de l'intégration de ces enfants-là, elle est importante. Hein. Et elle ne pourra pas aller à sa formation. Celle qui suit tel module sur tel truc, etc., ben non, ben tu ne peux pas y aller, etc. C'est non seulement la double peine, en plus, nous, dans nos crèches, moi, je le dis, il y a des filles super, elles ne sont jamais mises en avant, elles ne participent jamais à rien. On a un management qui, depuis quelques années maintenant, n'est pas super bienveillant. Voilà, on le dit, voilà. Parce que tout le monde souffre. Du service central jusqu'en bas, et en fait, voilà, c'est...
Je peux, donc, à Auxerre, dans la crèche municipale, il y a plus... Enfin, toutes les personnes à qui j'ai parlé ont témoigné de violences managériales, dans le sens où on les fliquait, alors on les remplaçait pas, donc elles ne pouvaient pas partir en formation, comme tu le disais. Il y a même eu des méthodes dignes de gendarmerie où, suite à la diffusion d'un tract syndical, il y en a 25 qui ont été convoqués à la direction de la petite enfance pour des interrogatoires enregistrés. Donc, c'est violent, quoi. Et puis
par rapport à quoi?
Pour savoir qui avait balancé, s'était plaint et pour derrière sanctionner. Au-delà de ce fameux épisode, souvent des entretiens le vendredi à 16h, et après la directrice de la petite enfance qui prévenait la directrice de la structure en disant attends-toi un arrêt maladie lundi.
J'imagine qu'en étant à la CGT et en faisant son travail consciencieusement, tu es accueilli aux bras ouverts à chaque fois.
Oui, mais on est très très vite débordé. Après, je pense à ce qu'il dit. Nous, on a un truc dans la fonction publique qui s'appelle le droit de réserve. Et le droit de réserve, mais il faut voir comment on s'en sert en fait pour faire taire les agents dans les crèches, dans les écoles, etc. Mais à outrance, quoi, le droit de réserve, quoi. Et en fait, il y a plein d'agents aujourd'hui qui ont peur de parler de leurs conditions de travail à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais au micro là, du podcast, etc., elles vont se dire, bah, putain, le droit de réserve, etc. Mais à un moment donné, stop, quoi. Tu vois, voilà, de se faire menacer, etc., de se faire parler mal, tout ça, voilà. Donc, on a quelques exemples qu'on ne citera pas au micro, mais de personnes qui ont dénoncé les conditions de travail, qui aujourd'hui vont certainement être convoquées aussi par leur administration, par leur supérieur, pour...
On va leur demander des comptes.
On va leur demander des comptes et elles vont certainement avoir un rapport dans leur dossier administratif. Voilà, parce qu'en plus, derrière, c'est souvent suivi de sanctions, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on fait taire un petit peu les gens qui dénoncent, quoi.
Ouais. C'est comme ça qu'on décourage les professionnels. Moi, parmi celles que j'ai interviewées, il y en a qui ont complètement changé. Pourtant, c'était leur vocation. Elles avaient suivi une formation pour travailler en crèche. Et elles travaillent dans un bureau, quoi, comme secrétaire ou totalement autre chose. Des personnes motivées, jeunes, qui étaient qualifiées et compétentes.
Et pourtant, c'est super bien payé, il paraît.
Ouais, vachement.
Ah ouais. c'est les grilles de la fonction publique chez nous, c'est pas super bien payé. La chance qu'on a à la ville de Marseille, ça, bon, c'est, effectivement, c'est d'avoir un régime indemnitaire, c'est ce qu'ils appellent les primes en fait, hein. Un peu plus important que dans d'autres villes. On va avoir les tickets restaurants, on va avoir quelques petits avantages. Nous, les primes à la CGT, comment vous dire, c'est pas notre bagarre, quoi.
Parce que
voilà, je veux dire, on va se battre pour l'augmentation du point d'indice, pour les salaires qui sont gelés depuis très longtemps, etc. Parce que
là, pour le coup, il n'y a pas de réchauffement climatique. Hein.
Non, là, pour le coup, là, c'est l'ère glaciaire sur les services publics. Mais parce que d'autant plus qu'en fait, je veux dire, y compris après le Covid et après certains trucs, on nous a pondu des primes, des machins. Mais d'où ça répare les corps et les conditions de travail? Et d'où ça répare le mental, en fait? On crache pas dessus, on a des salaires, je pense, et puis en plus avec l'inflation qu'on se prend en ce moment, évidemment qu'on les prend les primes, parce qu'on a des salaires, ils sont minables. Mais à côté de ça, je veux dire, la nana qui s'est fait un lumbago, celle qui s'est tuée les genoux, etc., ça lui répare rien, ni le mental, ni la charge qu'on a toute la journée, etc.
Tu voulais aussi intervenir pour la différence de gestion entre crèche municipale et crèche privée, là, par rapport au papier que tu as écrit dans Fakir.
Oui, ben on a un peu parlé, là, il y a quelques minutes, sur le surbooking. Des structures pour assurer une rentabilité maximum. Alors des fois ça se manifeste avec quand on prévoit pour 20 enfants et qu'en fait on en reçoit 25 sur la journée ou à un instant T, et ben il y a pas assez de lits, tout bêtement. Donc il y avait des consignes. Une des personnes que j'ai interviewées me disait pourquoi vous pouvez les faire dormir dans la salle de jeu, de toute façon c'est bien pour il y a du passage, ça rassure les enfants. On trouve toujours une excuse pour justifier ces choses-là. Et il y en a même une qui m'a dit bientôt, on rendra les enfants avec du caca dans les couches parce qu'ils auront utilisé les deux couches par jour qui sont prévues par enfant. C'est un peu le scénario catastrophe, mais qui j'espère se passe pas encore. Mais si elle en parlait, c'est que c'était à redouter, quoi.
Là, j'imagine que vous envisagez toutes de faire ça jusqu'à 65 ans.
Ouais, 67. Et au-delà, oui, bien sûr.
Oui, aller coucher le petit avec un déambulateur, je veux dire, rien de plus.
Mais moi, je voulais aller faire des chichis à l'Estac, finalement, mais vu le prix de l'huile et l'inflation, là, et mon plan B est tombé à l'eau.
Ah, merde.
Non, en fait, je pense qu'il faut qu'on entame une vraie réflexion donc sur la seconde carrière en fait, hein, parce que il y a des filles qui voudront pas quitter leur boulot, sauf qu'elles arrivent au traumatisme de devoir le quitter parce qu'elles ne sont plus en capacité de pouvoir l'exercer en fait.
Envisager une reconversion.
Voilà. Donc déjà c'est le premier levier, c'est peut-être aussi de reconnaître la pénibilité de nos métiers. Hein. Je veux dire, il y a des métiers qui sont pénibles, il faut le reconnaître. Donc il faut avoir une action. Moi aujourd'hui, avec les 1607 heures, etc. Je veux dire, on est à 39h15 semaine. Bon, avec une récupération des RTT, etc. C'est énorme. Donc peut-être avoir un levier là-dessus aussi. Un levier aussi sur les conditions de travail, le matériel adapté. Sachez aujourd'hui que les adultes dans les crèches de la ville de Marseille, ils n'ont pas de siège adapté. Donc on s'assoit sur des chaises d'enfants, on n'a pas de matériel adapté, on a des plans de change qui ne sont pas aux normes. On a tout un tas de petits trucs qui sont améliorés aussi pour qu'on s'abîme un peu moins. Et aussi pouvoir proposer aux agents aussi, à ceux qui veulent l'envisager et pas avant que leur corps s'abîme, la possibilité aussi peut-être d'une seconde carrière aussi, voilà.
Réfléchir avant que ça soit trop tard.
Y réfléchir avant que ce soit trop tard parce que c'est un traumatisme pour les filles en fait. Moi j'ai des filles qui tirent actuellement sur le service parce qu'elles ont très très peur de partir en reclassement, parce que repartir en reclassement ça veut dire être arrêté, ça veut dire tomber à demi-solde, ça veut dire passer des mois, des années sans peut-être trouver un poste parce que c'est pas aussi facile que ça de reclasser un agent... et avec cette spécificité-là. Et en plus, c'est perdant-perdant, y compris pour les services qui accueillent, parce que nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des services aujourd'hui. Alors, la nouvelle municipalité ne le veut plus, mais c'est quand même la réalité. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des services entiers, notamment le service des musées à la ville de Marseille, qui n'a été alimenté que d'agents abîmés, des crèches et des écoles. Donc comment vous... Enfin, je sais pas, mais je veux dire, pendant qu'il y a eu le Covid, alors déjà, ça a vidé, parce que c'est tous des agents vulnérables, parce qu'ils avaient tous des pathologies de fous, etc. Mais vous vous retrouvez avec des agents qui peuvent pas rester debout, qui peuvent pas ci, qui peuvent pas là. Ça réduit le champ des possibles. Et en plus, le service qui accueille, je veux dire, c'est compliqué aussi de fonctionner avec un service qui est comme ça, quoi.
On vient de faire un état des lieux qui est pas satisfaisant. On espère que les luttes vont aboutir. Il y a des dates à venir. Alors j'imagine que c'est largement mêlé à l'heure actuelle, les luttes avec le... contre la réforme des retraites, mais voilà. Est-ce que vous avez un calendrier particulier, vous ?
Alors actuellement, on est vraiment, vraiment mobilisés sur, enfin, contre la réforme des retraites, hein, parce que ben, c'est QFD. Je veux dire, voilà, c'est, on est beaucoup de femmes avec des carrières incomplètes, avec du temps partiel, avec, c'est la réalité, je veux dire, de notre société. Hein. Les femmes s'arrêtent pour garder les gosses, elles prennent les mercredis pour garder les gosses, etc. On est déjà, pour la plupart, je veux dire, on n'aurait pas eu sans la réforme les annuités pour partir, vous voyez. Donc on aurait déjà, enfin moi personnellement, j'aurais dû déjà tirer, donc je vais bosser jusqu'à quel âge en fait. Donc je pense qu'ils ont intérêt aussi à garder, on a un service public du funéraire à Marseille, mais qui le garde, parce que bientôt on fera la levée des corps au boulot, quoi. Voilà. Ouais. On fera d'un bout à l'autre. Non, mais c'est dramatique. Enfin, j'en dresse un tableau qui est pas très positif, parce qu'actuellement, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup fatigués. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que ces situations-là, c'était de l'ordre de l'exceptionnel avant. Et l'exceptionnel, c'est devenu le permanent, en fait.
Il y a Tristan, il me dit, il y a Camille qui a écrit le papier qui est vraiment super, qui fait 4 pages et qui est dans le dernier Fakir.
Donc, il faut acheter Fakir.
Voilà,
il faut
d'ailleurs, acheter. On tenait justement à le remercier en fait, de nous avoir fait justement 4 pages, puisque c'est rare les journaux qui nous font autant de pages sur les crèches. Donc,
on est souvent invisible, en fait.
Voilà. On passe beaucoup après les écoles, malheureusement, et heureusement aussi pour elles, parce qu'il y a aussi énormément de problématiques dans les écoles. Mais c'est vrai que du coup, on est souvent invisible. Et c'est vrai que le 4 pages nous a fait énormément plaisir. Donc on souhaite remercier Fakir. Merci beaucoup.
Merci Fakir, voilà, achetez Fakir.
Voilà, on a bouclé la boucle. Merci à vous quatre. Merci Camille.
Merci beaucoup.
Super, on va essayer de se tenir au courant de vos luttes et les soutenir. Et puis on pensera à vous quand on ira manifester ailleurs, parce que bon, on n'est pas du coin avec Thierry. Mais voilà, ben on a fait un état des lieux qui est affligeant. On n'est pas tellement surpris quand on sait comment est malmené à l'heure actuelle le service public. Et puis l'exemple que tu donnais à la fois de la façon dont on traite les plus jeunes et les plus vieux, les plus vulnérables, je crois qu'on est là-dedans. C'est pour ça aussi qu'on se bagarre contre ce système de merde. Merci à vous quatre, merci Camille. On va faire une petite pause et puis après on va attaquer avec nos potes de la presse alternative. J'avais aussi... On va leur demander comment, eux, éventuellement, ils peuvent relayer vos combats, vos luttes, pour faire en sorte que ça fasse tache d'huile. On est bon, Palach ? Allez, ciao, vive, portez-vous bien.
Oh. YouTubercule, faites ses 1 an avec Fakir.
Un an de plus, qu'il n'avait l'année dernière. Un an de moins, qu'il aura la prochaine.
YouTubercule, vous n'y échapperez pas. Jamais.